Voilà, bonjour, merci pour votre accueil, pour l'invitation que Philippe, votre pasteur, m'a adressée. Et voilà, vous m'entendrez tout sauter, un peu l'hiver voulant. Et mes médicaments étant peu efficaces. Vous dire pour me présenter, enfin pour dire à Myriam, maintenant qu'elle est partie, je vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis longtemps. Mais il y a des gens que je n'ai pas revus depuis longtemps, alors ouais, ça vaut peut-être la peine de vous parler de mon actualité. Ceux qui savent que je suis marié, père de 4 enfants, ne savent peut-être pas que j'ai maintenant 5 petits-enfants. Voilà, donc c'est en tant que grand-père que je viens m'adresser à vous. Et oui, alors peut-être pour dire à certaines personnes qui ne le savent pas, je suis pasteur ici à Fribourg depuis un peu plus d'une 20aine d'années. Et impliqué aussi dans la vie associative de la région, notamment au travers d'activités de conteur que j'exerce depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Oh, c'est génial. Une mère pour moi, une grande sœur, on va dire. Voilà. Et voilà, je pense que j'en ai assez dit me concernant. Si vous avez des questions, vous viendrez après. Et maintenant, entrons dans la lecture biblique que je vous propose pour ce matin. Il y en aura deux, en fait. La première dans l'Épître aux Romains. Romains 3, je lirai à partir du verset 20. Et puis, si vous avez envie de vous préparer pour la seconde lecture, elle sera dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Donc, je vais commencer par lire dans Romains 3, verset 20 et suivant. Et puis Hébreux 10, ça sera à partir du verset 12. Alors, Romains chapitre 3, à partir du verset 20. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais, dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a été patient, il n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Jusqu'ici pour la lecture dans Romains. Et puis, je vais en avant quelques livres bibliques pour aller dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10, 12. Le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Puis, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Je vous invite à la prière avant d'entrer dans cette méditation. Seigneur, nous ouvrons nos Bibles semaine après semaine, jour après jour. Et sans le secours de ton Esprit Saint, nous n'y comprendrions rien. Aide-nous, Seigneur, surtout à faire en sorte que dans ce que je dirai, chacun puisse retenir ce qui est bon pour lui. Être encouragé, consolé, édifié. Fais en sorte, Seigneur, que chacun puisse après ce temps de méditation, de prédication, être un peu plus proche de toi, être un peu plus réjoui de ta grâce, être un peu plus encouragé dans les différentes facettes de sa vie. Amen. Que le Seigneur nous rejoigne. Ces deux lectures pour introduire un thème que dans notre communauté, donc je suis pasteur à l'église libre de Bourguillon, un thème que nous avons traité avec les personnes qui sont responsables de l'animation des enfants. Les responsables de l'animation enfance chez nous, qui samedi après samedi, c'est le jour de nos rencontres, samedi après samedi, s'occupent des enfants, étaient un peu embarrassés avec un enseignement inévitable, incontournable à donner non seulement aux enfants, mais c'est la question du péché. Comment parler du péché aux enfants? Et puis, surtout le souci des personnes qui sont à l'animation enfance, comment parler du péché aux enfants sans être moralisateur ou culpabilisateur? Personnes donc, qui sont impliquées dans l'animation enfance ont réfléchi ensemble, voilà. On m'adressait cette question comme ça. Comment parler du péché aux enfants sans être moralisateur et culpabilisant? J'ai tout de suite été passionné par le sujet parce que ça faisait écho pour moi à des cours sur l'histoire de l'Église et des nombreuses lectures que j'ai eues, que j'ai effectuées sur l'histoire de l'Église quand il était question des réveils. Et ce que j'avais retenu en substance, c'est que les réveils dans l'Église surgissaient à un moment donné où les Églises en général étaient très moralisatrices. On avait remplacé le message de la grâce par de la morale. Et là, j'entendais la même question, le même souci porté par les personnes qui sont dans l'animation enfance. On tombe souvent dans le piège de parler du péché en étant moralisateur. Qu'est-ce qui se passait au temps des réveils? La réforme en étant un magnifique, gigantesque. Et puis après, nos églises évangéliques, enfants des réveils du 19e siècle. Ce qui s'est passé, c'est que en marge des églises où on était devenu moralisateur, surgissent des groupes de chrétiens qui, eux, ont besoin de se réjouir d'entendre la grâce de Dieu. Et en écho au texte que je vous ai lu dans Romains et Hébreux, se réjouir d'avoir quelqu'un qui vient donner une solution au problème du péché, où notre attention ne se focalise plus sur le péché, mais sur la grâce et le Dieu de bonté qui nous manifeste son amour, qui passe bien évidemment, et c'est incontournable, par quelque chose à faire avec le péché. Et c'est Jésus-Christ qui meurt sur la croix, mais surtout qui ressuscite au troisième jour. Et c'est ce qui fait la particularité des mouvements revivalistes, c'est cette effervescence, cette joie de se savoir pardonné et d'entrer dans la vie éternelle, dorénavant. Donc il existerait une fausse culpabilité, un piège là, quand on confond cette notion de péché, quand on la confond, parce qu'évidemment, il y a un risque de confusion quand on confond la psychologie et la théologie. C'est une première chose qui a fait notre intuition puis qui nous a aidé à comprendre pourquoi il y avait un problème là quand on parle du péché. Et pas seulement aux enfants. Hein. Je crois que du haut de la chair, quand on vient vous parler du péché, nous, prédicateurs ou enseignants, devons faire attention. Être bien sûr qu'on parle au niveau de la théologie, ce qui est notre spécialité, notre passion, et pas au niveau psychologique, parce que je ne suis pas psychologue. La morale devient donc moralisatrice quand on néglige la grâce, quand on va perdre l'équilibre entre la loi et l'évangile. Quand la morale consiste à rechercher les standards de Dieu sans la grâce. Alors, on avait bien entendu la question des responsables d'animation enfance. Comment parler du péché aux enfants sans être moralisateur et culpabilisant? Mais nous, quand je dis nous, donc c'est les responsables de l'enseignement. On a un groupe enseignement dans le cadre de notre communauté. On est 5-6 personnes à se former et travailler ensemble à l'enseignement et la prédication. On a décidé et on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu transformer cette question. Elle n'était pas tout à fait bien formulée. Alors voilà, hein, c'est un peu l'apanage ou la passion des enseignants. On réfléchit aux choses, on les tourne dans tous les sens. Et nous sommes arrivés à redire, il faut à une nouvelle formulation. Comment parler du péché de manière adéquate? Parce qu'au fond, la morale et la culpabilité sont des notions incontournables. On doit en parler. La morale, le standard de Dieu, il faut l'annoncer. La culpabilité, on l'a entendu dans Romains 3, hein, elle nous éclabousse tous, elle nous concerne tous. Donc on ne peut pas y échapper. Par contre, la question qu'on préférait, c'était parler aux enfants du péché de manière adéquate. Comment peut-on parler du péché de manière adéquate? Et vous l'avez compris, donc on ne va pas s'adresser qu'aux enfants, puisque je vois ici que de grands enfants, non mais des adultes, quoi. Alors on va s'adresser à vous. Alors, le terme « adéquate » nécessite un premier commentaire. L'enseignant, l'éducateur, l'animateur, le pasteur, ou chacun d'entre nous, quand on présente l'Évangile à quelqu'un et qu'on parle du péché, nous devrions être adéquats. Parler du péché depuis une vie consacrée, conséquente, en adéquation avec les standards de Dieu. Mais, et c'est là où, pour nous, il y avait une prise de conscience, parler du péché de manière adéquate, c'est parler aussi du péché en étant conscient de notre propre vulnérabilité, fragilité. Je ne suis pas épargné, moi qui vous parle maintenant du haut de la chair, par les tentations et les chutes. Moi qui vous parle, j'ai besoin, le premier, de la grâce. Parce que, fouillant les textes bibliques, creusant ce thème du péché, combien de fois ma conscience a été reprise et je me suis dit, ouais, ben, où est-ce que j'en suis avec les standards de Dieu? On ne peut pas parler du péché comme si on était supérieur aux autres. Voilà. Il y a une nécessité d'abord, c'est parler du péché en communion. Le problème que je vais vous exposer par rapport au péché, c'est le mien, c'est le nôtre à tous. Je me rappelle avec beaucoup d'humour un exposé d'un professeur qui comparait l'Église, c'est un petit peu son aspiration, son enseignement, c'était sur l'Église. Un professeur qui nous disait qu'il voyait l'Église un peu comme les alcooliques anonymes. On est tous pécheurs, on a tous un problème à régler avec le péché, qui est une addiction qui nous colle au basket, c'est terrible. comme les alcooliques finalement. C'est une maladie qui nous affecte. Avant d'être, pour l'alcoolisme, d'être un choix mauvais et malheureux, c'est d'abord une maladie. Et si on voyait l'Église un peu comme les alcooliques anonymes, il faudrait venir et puis se réjouir anonymement et puis dire, voilà, moi ça fait 3 heures que je n'ai pas péché. Alléluia, on se réjouit avec toi, super, ouais, tiens le coup encore. Et puis après une semaine ou deux ou trois sans péché, tu reçois une petite plaquette, ta petite pièce là, puis ah, je me rappelle, je vais tenir le coup. Et puis quand malheureusement on chute, on vient puis dit, ben voilà... bonjour les amis, bonjour Olivier. Vous connaissez les rituels des alcooliques anonymes, hein. Dites, je vous en parle, c'est pas parce que j'ai été aux alcooliques anonymes, hein. Ne croyez pas ça, hein, quand même. J'y suis pas allé. Mais c'est pas une honte, au contraire, c'est une bonne aide, c'est précieux, c'est important d'avoir un lieu comme ça où on ne vous juge pas. Où on ne vous juge pas. Et je crois que ce professeur, quand il voulait comparer l'Église aux alcooliques anonymes, formulait un vœu que dans l'Église, on ne juge pas le pécheur repentant. Parce qu'on vient avec tous le même problème, on pêche. En pensée, en parole, par action et par omission. Ça, c'est mes réminiscences du catholicisme dans lequel j'ai vécu mes premières années. D'enfance et d'adolescence et de jeune adulte. Et au fond, c'est un écho de Romains 3:23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, on n'y échappe pas. Nous sommes pécheurs. Et on vient ici solidaire, communauté de pécheurs, mais de pécheurs pardonnés. Donc on va y arriver. Donc voilà une première mise au point importante si on veut parler du péché de manière adéquate. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a réglé le problème définitivement. Sinon, par la foi en Jésus-Christ, on va y revenir. Donc on va, après avoir fait ces quelques distinctions, définir le péché ensemble, voir quelques articulations qui nous sont proposées avec les deux lectures que je vous ai faites tout à l'heure. Puis on va entrer dans une étape de discernement. Comment discerner ? Et je regarde qu'il est 11h-7. Et puis, vous vous dites, toi, Olivier, il a un programme pour toute la journée, qu'est-ce qu'on va faire ? Non, non, je vais faire court, rassurez-vous. En commençant par boire un... D'autant qu'il y a la Sainte Cène qui nous attend dans un petit moment. Qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce que le péché ? Tout ce qui est dit, fait, convoité, oublié, ou je ne sais pas quoi, contre la loi éternelle. Toute transgression de la loi divine ou le manque de conformité à cette loi. Le péché, c'est le non-accomplissement de la volonté de Dieu. C'est donc une notion théologique et non pas psychologique ou sociale ou relationnelle ou culturelle, que sais-je. Qu'est-ce que la morale ? C'est une bonne chose, la morale. On en a rudement besoin. C'est le standard de Dieu, c'est sa volonté. La morale répond à la question, Dieu, que veux-tu que je fasse ? Et Dieu, que veux-tu que je fasse ? Je crois que c'est une question qu'on se pose du matin au soir en tant que chrétien. Ça devrait être votre souci quotidien. Qu'est-ce que la culpabilité ? Ben, j'ai trouvé cette belle définition que je vous livre comme ça. C'est le sentiment de culpabilité prépare, hein, c'est ce qui prépare au rétablissement de l'harmonie perdue dans la relation à Dieu. Alors ça, je trouve intéressant comme définition. C'est ce qui prépare au rétablissement de l'harmonie perdue dans la relation à Dieu. Et là, il y a quelques pièges. Il faut faire attention. Ça peut être un état d'âme passif, on en reste là. Hein, j'ai ce sentiment, je me morfonds, et ou alors en rester là, immobile, je peux, ou alors tomber dans ce qu'on a appelé la démesure, les craintes paralysantes, je suis pêcheur, c'est foutu, c'est terminé, c'est une catastrophe, ou alors je vais faire tout pour me, m'améliorer, faire des efforts qui seront toujours insatisfaisants, trop courts. Là arrive le danger de fausse culpabilité. Parce qu'on s'arrête au sentiment. Alors que dans la culpabilité, il y a un aspect objectif. Je peux donner une image, vous allez au tribunal, vous avez dépassé la limite de vitesse de façon assez conséquente, c'était 60 limité, puis vous étiez à 120 au milieu du village. Là, il y a quelque chose, objectivement parlant, ça ne va pas. Il y avait le radar qui était là, ça a été enregistré, voilà. Vous n'avez peut-être pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, au contraire, vous avez pris votre pied, oh, là, c'était super, nanana, mais vous êtes coupable. Que vous le sentiez ou pas. Mais si vous allez plus loin, vous êtes conscient d'avoir contracté une dette, et une dette envers Dieu. Le fils prodigue, dans cette parabole puissante que Jésus donne, il vient vers son père, il revient vers son père, hein, après avoir dilapidé l'héritage de son père, et puis être tombé bas, bien plus bas qu'on peut imaginer, puisque en tant que juif, il s'occupait des cochons. Il aurait bien aimé manger ce que les cochons mangeaient, tellement il était dans le dénuement et une vie gâchée. Et quand il revient, il dit à son père, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc c'est bien une dette contre le ciel que nous contractons. Donc on est là dans une notion spirituelle et théologique. En hébreu, j'ai trouvé étonnant la quantité de termes différents pour évoquer la notion de péché. Depuis un moment, moi, je vous parle du péché, alors que c'est quelque chose de très, très nuancé. Hein, c'est comme si je venais avec vous et je vous dis, voilà, alors, les couleurs, c'est super, c'est bien, c'est comme ça, nanana, nanana. Et puis, je dis les couleurs, un terme générique comme ça, sans entrer dans le détail qu'il y a le bleu, puis qu'il y a une quantité astronomique de nuances de bleu, du rouge, puis une quantité astronomique de nuances de rouge, etc., etc. Puis quand vous mettez du bleu et puis du jaune ensemble, ça fait une quantité astronomique de nuances de vert. Et voilà, s'il y a des artistes peintres parmi vous, vous comprenez de quoi je parle. Et il y a, dans le texte biblique, une quantité importante, vraiment, de nuances pour parler du péché. J'ai trouvé ça passionnant. Alors, sans rentrer dans des questions techniques, je vous livre certaines de ces nuances. La notion de manquement, de cible ratée. Il y a un objectif qui est là et on passe à côté. La méchanceté, hein, une volonté orientée vers le mal. On veut le mal à l'autre. La notion de tordre quelque chose. Hein, quelque chose qui était droit, qui était côte, on le tord, on le fait dévier. Les entorses à la rectitude. L'idée de révolte, bafouer l'autorité. La notion de mensonge, avec cette nuance, tout ce qui est de l'ordre du néant. Et le mensonge en fait partie, un discours vide. Hein, le néant, c'est la négation de ce qui peut être bien bon. La notion de transgression, passer outre une limite. La limite est là et on va au-delà. Et puis la notion d'errance. Essayez de vous imaginer dans une forêt, il n'y a pas de chemin, puis vous vous trompez, au lieu d'aller à l'est, vous allez à l'ouest. D'ailleurs, on est à l'ouest, c'est une expression assez parlante. On tourne en rond, on ne sait pas où on va. Donc, un vocabulaire extrêmement riche et plein de nuances. Le grec aussi connaît ces nuances. Donc, il n'y a pas qu'un seul mot pour parler du péché, mais il y a toutes ces nuances. L'injustice, le rejet de la loi, l'impiété, la chute, tomber. Je perds l'équilibre. Quelques symboles aussi, hein, pas seulement du vocabulaire pour parler du péché, mais aussi des symboles intéressants. On revient avec l'errance, hein, j'ai perdu le chemin. Mais la maladie fait partie de ces images qui permettent de comprendre certaines nuances du péché. La maladie, l'infirmité, la souillure, ce qui aurait dû être propre et sali. Et puis, bien sûr, la notion que nous connaissons tous bien, c'est la dette. Je contracte une dette envers quelqu'un. J'ai un découvert. Au fond, autant de nuances pour redire ce que Romains 3 nous expliquait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est épargné, qu'on ait ou pas ce sentiment de culpabilité. Alors, comment peut-on articuler la loi, la grâce, la foi, l'amour, la justice, le péché, transgression, culpabilité, pour faire comprendre justement le message libérateur de l'Évangile, cette puissance époustouflante? En écho alors à Romains 3 et Hébreux 10, on peut écrire tout un tas de descriptions. En face de la sainteté et de la justice de Dieu, l'homme est impur et injuste. Hein, voilà, je mets la notion de péché dans le domaine du théologique et pas du psychologique, en face de Dieu et de sa justice. Mais comme Dieu nous aime d'un amour absolu, il suspend notre châtiment mérité en nous offrant par sa grâce la vie et la joie de sa présence. Par le sacrifice de Jésus-Christ. En effet, Jésus mourant sur la croix est le sacrifice qui satisfait à la justice de Dieu. Il manifeste ainsi son amour pour nous. Nous étions incapables d'accéder à la justice de Dieu par l'accomplissement de la loi. Nous sommes désormais justifiés par la foi en l'œuvre de Christ, le sacrifice qui nous offre la vie éternelle. Voilà, c'est un exemple de réponse, d'écho à tous ces passages bibliques qui disent les choses très bien. Alors j'arrive à la conclusion, elle sera sous forme d'exemple et de proposition pour exercer notre discernement. Parce que c'est une chose, une conclusion à quoi on est arrivé. Parler du péché, il faut surtout éviter de donner du prêt-à-penser ou du prêt-à-croire. Il faut exercer au discernement. Il faut éviter les « tu dois », « il faut ». On n'est pas là. Dieu nous veut responsables. Sinon, ça fait très longtemps qu'il aurait réglé le problème et puis nous aurait forcés et contraints dans la sainteté. Et puis, on serait des espèces de machines parfaites. Voilà, ça fonctionnerait comme ça. Sans amour. Et c'est parce qu'il y a l'amour que nous sommes invités librement à assumer nos responsabilités. La responsabilité s'exerce. L'exercice de la responsabilité. L'exercice du discernement. Alors, on a réfléchi pour les enfants, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous réfléchissons, avant de le faire, aux conséquences de nos actes, de nos paroles? Ça, c'est un premier exercice de discernement. Quelles conséquences? J'aime donner cet exemple, là, je l'ai vécu avec mes enfants, donc il y a très longtemps, parce que maintenant j'ai des petits-enfants. Un de mes enfants ne voulait pas aller à l'école. Puis je m'assis en face de lui, puis très sérieusement, je lui dis, mais tu sais que, ouais, t'es libre, t'es pas obligé d'aller à l'école. Oh, regard lumineux de mon fils. Puis après, j'ai essayé avec lui d'exercer le discernement. Puis il dit, bon, alors, si tu ne vas pas à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Alors lui, il pensait tout de suite, je pourrais jouer dans ma chambre, j'ai mes jouets qui m'attendent, nanana. Ouais, mais attends, il va se passer quelque chose à l'école. La maîtresse, elle s'inquiétera parce que t'es pas là. Conséquence, elle va me téléphoner. Je vais lui dire, écoutez, ben voilà, il voulait pas aller à l'école, je ne l'ai pas envoyé. Puis elle va me dire, mais monsieur Fazel, c'est pas comme ça. La loi en Suisse, elle veut que vos enfants vous l'enleviez. D'accord, puis il y avait mon gamin qui m'écoutait comme ça. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Vous voyez comment on exerce le discernement en posant les questions. Poser des questions. Aider à faire réfléchir. Réfléchir à nos références, nos valeurs. Comment je sais? Où est-ce que je vais chercher des critères de bien et de mal? Ou dans telle situation, qu'est-ce que je vais faire? On s'est rendu compte qu'il y avait des proverbes très intéressants pour communiquer ce sens du discernement. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ah, ça fait réfléchir, hein? Alors ça, ce n'est pas un proverbe biblique, mais vous avez des proverbes bibliques qui sont autant d'occasions de réfléchir, hein? Parle à l'insensé selon sa folie. Et puis le proverbe suivant, ne parle pas à l'insensé sans sa folie. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est bien? Les contes, les jeux. Je me souviens d'un jeu auquel tu as participé, Marie-Estelle. Le Power Tower, tu te rappelles, hein, c'était traumatisant ce truc. Power Tower. Ce jeu a été... pour moi, l'occasion d'une prise de conscience déterminante, définitive. Le Power Tower consiste à empiler des plots les uns sur les autres. Puis c'est ça la tower, la tour. Mais c'est la Power Tower. Donc le power là derrière, le pouvoir, c'est le pouvoir du groupe. Pour pouvoir empiler ces plots, ces tours les unes sur les autres, on a un crochet, les plots sont creusés, il y a un crochet qui permet de soulever les plots et de les mettre les uns sur les autres. Et le crochet est actionné par un faisceau de cordes. Et nous sommes 3, 4, 5, 6, 8, 10, ça dépend le nombre de cordes qu'on veut mettre, à ensemble devoir actionner ce crochet. Alors c'est déjà très difficile d'aller tous ensemble, hein. Vous imaginez le truc, hein. On est en cercle, on tient tous un bout de corde. Et puis au milieu, donc, il y a un anneau, le crochet en dessous de l'anneau. Et puis on doit tous, en groupe, actionner ce crochet pour aller déjà chercher la tour, la mettre sur la précédente et la prochaine, etc. Je crois que le maximum que j'ai vu mettre de plots, de tours les unes sur les autres, c'était 5. Puis après, on voulait mettre une sixième. Et puis tout est tombé, il y a quelqu'un qui a éclaté en sanglots. Tout ça pour ça. Il y a un truc vraiment poignant parce que tout d'un coup, on est dans un groupe et on veut que le groupe y gagne. Puis là, il s'est passé une chose. C'est qu'il y a une petite règle à ce jeu bonnard, marrant. Hein. C'est qu'il y a un cercle au sol qui est délimité par une corde, par du scotch ou n'importe quoi. Et si quelqu'un transgresse, traverse, hein, passe le pied au-delà de ce cercle, alors l'équipe a perdu. D'accord? Donc la personne qui commet une transgression, ouais, traversée, hein, c'est ça, l'équipe a perdu. Donc on devait faire attention, on mettait les pieds, et puis on actionnait cette corde, etc. Et puis, on était un groupe à faire ça, et on arrive à mettre un plot, deux plots, puis tout d'un coup, l'arbitre, le meneur de jeu, dit « Stop, vous avez perdu ». Comment ça, on a perdu? Eh bien, ouais, voilà, il y a quelqu'un qui vient de passer le pied par-dessus le truc, là, par-dessus la limite, c'est perdu. Oh non, mince, nanana, tout ça. Puis la pauvre nous dit, ouais, mais ça fait un moment que je vous dis, attendez-moi, si je perds l'équilibre, là, là, là. Puis nous, on était tellement concentrés sur notre tâche à accomplir, la tour à mettre, le crochet à bien orienter, faire attention, qu'on n'a pas entendu. On n'a pas entendu ces appels. Et donc, c'est le groupe qui a poussé une personne à commettre l'irréparable. Et pour moi, c'était un choc. Parce que combien de fois nous sommes prompts à accuser, pointer du doigt une personne qui a transgressé, qui a mis le pas un petit peu trop loin, sans se rendre compte que il y avait des appels. Elle essayait d'avertir d'une manière ou d'une autre, et nous avons été sourds à une détresse, sourds à une fragilité, sourds. Et nous condamnons un peu trop vite. Alors que, vous savez, on dit, quand on condamne quelqu'un, on montre comme ça, il y a un doigt là, puis il y en a trois qui viennent là. Hein, c'est ça. Hein. Je condamne une personne, j'ai trois condamnations à régler chez moi d'abord. Jésus ne disait rien d'autre hein, quand il disait, avant de reprocher la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans le tien. C'est ça. On est là. Un petit jeu significatif qui nous aide à comprendre les mécanismes du péché. Un petit conte que j'aime beaucoup. Je vais terminer avec ça. Il était une fois un grand roi qui passe avec son carrosse sur un chemin boueux. Et au bord du chemin, un petit garçon, un mendiant qui tend la main désespéré. Le roi est ému, touché. Il fait arrêter le carrosse. Et puis, le petit, on le fait rentrer dans le carrosse. Lui, il ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Là. Il est catapulté dans la soie, dans les pierreries, dans un palais magnifique. On lui met des habits fantastiques, des souliers aux pieds. Oh, ces trucs-là. Ah, bon. Alors que lui, allait pieds nus dans la boue. Et le roi décide de l'adopter, d'en faire son héritier. Et puis, il lui confie une mission. Il lui dit, tu vois, au pied du château, il y a un petit étang. Et dans cet étang, il y a 5 cygnes. Ils sont magnifiques, le cou élégant, leur vol puissant. Ils glissent sur l'eau de façon tellement charmante. 5 cygnes. Ta mission, c'est d'en prendre soin. Tu vas les nourrir. Tu vas faire en sorte que l'étang soit propre. C'est ton travail, fils de roi. Alors le petit, tout content, il prend soin de ses 5 cygnes. Mais évidemment, en tant que fils de roi, il a des tas de choses à apprendre. Il apprend à lire, à écrire, il apprend le grec et le latin. Il apprend comment on fait la révérence, comment on se comporte en tant que roi. Il apprend la géographie du monde. Et surtout du territoire qui sera amené à diriger. Et puis il apprend l'art de la chevalerie, monter à cheval, se battre avec une épée, tirer à l'arc. Puis un jour, il s'exerce à tirer à l'arc, il tire mal, il rate la cible, et puis boum, la flèche se plante dans le cœur d'un des cygnes. Catastrophe. Je devais prendre soin des cygnes. Et j'en tue un. Regarde autour de lui. Personne. Près de l'étang, il creuse un trou et puis il cache le cygne, ni vu ni connu. 5, 4, ce sont de belles ombres qui flottent sur l'eau. On n'y verra rien. Seulement, il ne s'était pas rendu compte, il ne le savait pas, le cuisinier du château avait tout vu. Si bien qu'à un détour de couloir, le cuisinier vient et dit « Dis donc, le cygne que tu as tué, j'ai vu. » L'enfant devient pâle. Son sang s'arrête dans ses veines, glacé. Et le cuisinier, qui avait toujours trop de travail, il dit « Dorénavant, tu vas venir avec moi, corvée de patates. » Et voilà comment un fils de roi, héritier de la couronne, devait tous les jours en cachette de son père, descendre aux cuisines et peler les patates, laver les assiettes et les couverts. Il était devenu l'esclave du cuisinier. Odieux chantage exercé par ce funeste personnage. Et puis la vie continue comme ça dans un esclavage épouvantable. Jusqu'au jour où, n'y tenant plus, l'enfant rentre dans sa chambre, sort ses vieux habits de mendiant, enlève ses souliers à ses pieds Et puis c'est habillé en mendiant qu'il va dans la salle du trône où il y a son père avec ses ministres. Il est tout honteux. Et puis il se rend bien compte que c'est intenable cette vie. Donc il veut s'en aller. Le roi congédie ses ministres, accueille son fils adoptif. Et puis le petit lui explique, voilà, j'ai fait une immense bêtise, le cygne mort, mais j'y tiens plus, le cuisinier qui connaît les choses, voilà. Et le père se met à pleurer. Imaginez un roi qui est là, qui va vers ce petit, qui le prend dans ses bras, le petit qui ne comprend rien. Et puis le roi qui lui dit, tu sais, j'étais à la fenêtre de ma chambre quand ça s'est passé. Quand ta flèche a dévié, j'ai tout vu. Je savais et j'attendais ce jour. J'attendais ce jour où tu aurais compris mon amour et que tu oserais venir me dire, m'apporter ta faute, cette confidence. Tu peux me faire confiance. Et à ce petit, on lui a remis ses habits princiers. C'est comme ça avec Dieu, il voit tout, il sait tout, c'est nous qui nous cachons les choses à nous-mêmes. N'oubliez pas que Dieu est bon. Que s'il nous faut parler du péché, c'est pour que nous comprenions d'autant mieux le pardon, la grâce qui nous est offerte et que nous allons maintenant célébrer, rappeler en prenant ensemble la Sainte Cène. Amen.